franceinter.fr.
Bonjour, bienvenue sur le réseau Ligne d'Azur. Bon voyage.
Bonjour à tous.
Opéra, vieille ville.
Aujourd'hui, troisième épisode de notre série Train de campagne. Nous embarquons dans la première ligne du tramway de Nice, un tram vieux de 10 ans, mais qui ne dessert toujours pas les quartiers défavorisés de la 5e ville de France. Nice, une ville cosmopolite, française depuis 1860 seulement, qui a accueilli plusieurs vagues d'immigration à travers l'histoire et dont 21% de la population, plus d'un habitant sur cinq, est issu de l'immigration selon le dernier recensement de 2013. C'est aussi une ville qui a la réputation d'être l'une des plus droitières des grandes métropoles régionales, administrée pendant 24 ans par Jacques Médecin qui déclarait partager les idées du Front National à 99,9%, puis par Jacques Perrin, lui-même transfuge du FN. Elle est gérée depuis 2008 par Christian Estrosi, qui a passé la main l'an dernier seulement à son premier adjoint, Philippe Pradal, après avoir été élu président de la région. Aux dernières élections régionales, justement, Marion Maréchal Le Pen avait recueilli à Nice 34% des voix au premier tour. La ville est aussi traumatisée depuis le 14 juillet dernier et l'attentat revendiqué par le groupe État islamique. En pleine fête nationale, le camion conduit par Mohamed Laouech Boulel fauche des dizaines de personnes et 86 seront tués. Les tensions intercommunautaires déjà fortes dans la région en seront naturellement ravivées. Nice, une identité plurielle, c'est un reportage de Vanessa Descouroux.
Interception, le magazine de la rédaction.
Prochain arrêt.
Next stop. Massena.
Massena. Massena.
Descends ici.
Je m'appelle Fatia Naber, de mon nom de jeune fille, ma mode, mon nom d'épouse. J'ai 34 ans, j'ai deux enfants. J'habite sur Nice depuis 10 ans. Avant, je suis originaire du sud-ouest, de Pau exactement. Et donc, ça fait 10 ans que Nice devient ma ville, on va dire, adoptive.
Le voile, puisque vous portez le voile, Fatia. Est-ce que c'est le même regard que vous affrontez chez vous, sur vos terres d'origine, le sud-ouest, et votre terre d'adoption ici, à Nice?
Il n'y a pas du tout la même approche, ne serait-ce qu'au voile. On me renvoie souvent justement ici à mes origines, origines de mes parents et pas les miennes, parce que quand on me demande de quelle origine, quand je dis je suis du sud-ouest, on me dit, on vous parle de vos origines de là-bas. Pour eux, là-bas, c'est l'autre côté de la Méditerranée, en sachant que moi, mes origines, certes, je ne renie pas. J'ai été imprégnée de la culture algérienne parce que mes parents sont algériens, natifs d'Algérie, mais je suis née à Pau, j'ai grandi à Pau, et quand je suis arrivée à Nice, je pensais vraiment qu'on allait m'accepter en tant que telle, mais en fait, on me renvoie toujours justement à ce voile que j'ai et à ce prénom que j'ai aussi, Fatia. Ça a des consonances de là-bas. Je ne sais pas si je peux parler comme ça. On est toujours, on est souvent confrontés, oui, à la réalité. Moi, j'ai mes enfants qui sont à l'école publique ici à Nice. Je me suis battue pour pouvoir sortir avec eux aux sorties scolaires parce que c'était interdit aux mamans voilées. Et c'était un arrêté qui a été pris que par Nice.
Donc vous avez attaqué, contesté cet arrêté,
oui,
et vous
contesté.
Avez obtenu gain de cause.
Exactement. Voilà, ça a été très dur parce qu'on a été confronté au personnel enseignant, aux mamans qui venaient nous dire « si t'es pas contente, change ton enfant d'école, etc. » Mais non, moi, je n'estime pas changer pour... Non,
on vous dit clairement que la place pour vos enfants n'est pas à l'école publique à ce moment-là.
C'est ça, exactement. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans parce qu'il commence à avoir des écoles qui s'ouvrent pour justement la population musulmane. Mais moi, je veux pas. Je veux que mes enfants connaissent ce que j'ai connu. Ce qui me fait encore le plus mal, et c'est là où je me dis qu'on a vraiment régressé, c'est que mon père me disait, nous, on était pointés du doigt parce qu'on était arabes. Mais vous, les jeunes, vous êtes nés ici. On vous traite de sale arabe et on vous traite maintenant de sale terroriste. On est par deux fois pointé du doigt. Alors que mon père, c'était que ses origines qui posaient problème. Maintenant, c'est nos origines plus notre religion. Justement, moi, mes enfants, j'essaie vraiment de les cadrer, de leur donner le maximum d'informations sur la religion musulmane, leur faire aimer justement la France, de leur dire voilà qu'on est tous pareils. Et que
essayer de faire aimer la France.
Ben oui, oui, parce que voilà, la France, ça reste notre patrie, notre pays. Mais après, l'État, le discours anti-musulman, anti-brassage, c'est fatigant à force. Dès qu'on allume la télé, on entend ça. Forcément, à un moment ou à un autre, on se dit, on nous aime pas. Donc, à force, je me dis, oui, ils nous acceptent pas. Parfois, j'ai l'impression que, à un moment ou à un autre, on va arriver. Et ben, il y aura la chasse aux musulmans, chasse aux sorcières.
Nous sommes sur le cours Saleya, l'une des principales artères commerçantes du Vieux-Nice. C'est le marché aux fleurs. Il n'est pas très fréquenté d'ailleurs en cette matinée, mais déjà très très coloré. Et c'est le jaune qui prédomine parce que nous sommes en pleine saison du mimosa. Vous êtes un vrai niçois, un pur niçois comme on dit?
Je suis un pur niçois, je ne suis pas né ici, mais j'habite là depuis exactement 80 ans. Donc ça fait un bail. Ce marché, avant, c'était un marché d'enfer. Il y avait toute la ville qui venait là. En été, ils montaient sur le boulevard Jean Jaurès. Hein, ils passaient l'été là-haut. L'hiver, il était là, il était sous un truc couvert. Bon, il y avait un monde fou maintenant. Il n'y a plus que des attrape-touristes, des savonnettes, des je ne sais pas quoi. Avant, il n'y avait que des légumes et des fleurs ici. Maintenant, ça a pratiquement disparu.
On sent une fracture entre guillemets entre les Niçois et les touristes qui se regardent comme ça un peu en chien de faïence. Est-ce qu'il n'y a pas une autre fracture entre Niçois, c'est-à-dire les Niçois musulmans et les Niçois non musulmans? Dans cette ville, on sent quand même cette tension.
Mais c'est-à-dire qu'on en a beaucoup trop. Hein.
C'est-à-dire...
Et on leur a fait opération porte ouverte et ils sont venus. Hein. Ils ont raison. Ils ont tout gratos chez nous. Ils sont bien chez nous.
Mais moi, je vous parlais des musulmans
oui,
niçois,
musulmans.
C'est-à-dire des Français, des Niçois. Des...
Oui, mais ceux qui sont nés là, il y en a, ils se comportent bien, et puis il y en a, ils se comportent pas bien, parce qu'ils n'ont pas été éduqués. C'est tout. Si on les avait éduqués, si on avait éduqué leurs parents en disant, ici, vous êtes en France, c'est comme ça que ça se passe, et pas autrement, peut-être on n'en serait pas là dans toute la France. S'ils ne viennent pas avec un sabre pour vous dire « moi je suis musulman, toi tu dois l'être aussi ». Moi j'ai un gendre qui est musulman, il est adorable. Si j'éternue, il est là 5 minutes après, alors j'ai quand même félicité. Il n'y a pas mieux. Mais ils devraient tous être comme ça, malheureusement, c'est pas le cas. Comme ça, il y en a un sur pas beaucoup.
Est-ce que depuis le drame du 14 juillet, vous avez un regard un peu craintif vis-à-vis de l'islam et peut-être des musulmans ici? Ou
non.
Est-ce que vous vivez comme
moi,
avant
non.
Vous
moi non, hein, personnellement non. Bon, mais il y en a, ils commencent à avoir... Ils se font du souci, disons. Voilà. Mais ils se font du souci pour l'après, pour... Parce que on n'a rien de moins qu'une guerre latente hein, chez nous. C'est ça, hein? Et ils ont amené la guerre chez nous, hein.
Une guerre?
Ben oui. Quoi qu'on en dise, c'est ça, hein. Ça se sait pas, mais... C'est un peu comme pendant la dernière guerre, les résistants qui étaient en France contre les Allemands. Maintenant, c'est eux qui résistent contre... Pas tous, hein. Il y en a une petite partie. Il y en a quelques-uns, on en attrape tous les jours. Voilà.
Bon. Eh ben, on vous laisse rentrer avec votre bicyclette.
Sur ces bonnes paroles, parce que j'ai encore pas mal à faire...
Je peux vous demander comment vous vous appelez, monsieur?
Circis.
Prénom?
André.
André, au revoir.
J'ai un des meilleurs. Bonne journée.
Bonne journée.
Lesquelles? Des langues?
Non, du
coup. De la 50. 20.
Je m'appelle Philippe Jonides. Mon arrière-grand-père était un migrant grec. je peux revendiquer la paternité, nous les Grecs de la ville de Nice, qui s'appelait Niké. Ça veut dire victoire.
Vous venez souvent ici ?
Oui, je viens souvent ici. C'est mon voisin.
C'est un restaurant.
Restaurateur sur le cours Saléa.
Non, j'ai rien.
Le nous. Bistrot de Jennifer.
On en profite pour faire un petit peu de pub comme ça ?
Non, tranquille. Je m'épelle.
Vous sentez que c'est une ville qui est unie ou qui est divisée ? En gros, je résume,
je pense qu'elle est
musulmans
unie.
Et non-musulmans.
On va faire des amalgames, automatiquement. Et c'est ça qui est extrêmement dommage. Parce que je ne pense pas que chaque musulman soit un terroriste. De toute façon, après, évidemment, les paroles fusent. On pense que... Et en même temps, là, je pense que la communauté musulmane, elle essaye de faire des efforts par rapport à ça. Et est-ce que les autres font des efforts ?
C'est qui les autres ?
C'est nous. Les non-musulmans. C'est compliqué dans la tête des gens. Mais on a tous des amis arabes. Moi, j'en connais pas un seul qui a une âme terroriste. Qui a une âme de djihad ou de quoi que ce soit. Après, je pense que par rapport à ça, les gens qui se sont fait envoyer parce que ce sont des gens... Il y a une faiblesse chez eux. Ou parce que la société n'apporte pas de réponse. Regardez, quand je vous parlais d'amis arabes, en voilà un. Hein. Il a une tête de terroriste et ça n'est pas un pourtant.
Dit-il en partant, en souriant, en levant le pouce. Tout le monde se connaît ici.
Oui, mais bien sûr, tout le monde se connaît. Après, c'est... Voilà.
Tout à l'heure, vous avez dit « j'ai confiance en ma ville ».
Oui, j'ai confiance dans ma ville, bien sûr. Puisqu'il faut avancer, il faut vivre. On est la 5e ville de France. On a quand même de belles choses à montrer, à voir. Et à... Bien sûr que j'ai confiance dans ma ville. Il faut bien avancer. Il faut qu'on joue avec les éléments que nous avons. Et en ce moment, il faut que ça se rétablisse sur la confiance.
Pour tous les Niçois.
Pour tous les Niçois, bien sûr. Pour tous les Niçois et pour tout ce qui nous entoure.
La belle, ça vaut 25 euros.
Non, un fournisseur qui veut des sous. Il n'en aura pas.
Oh là là, je vous ai prévu de mon VP ou quoi ce matin ?
Non, je me suis levé du pompier, mais pour pas
trop. Ah, non.
Sur la promenade des Anglais, un monument se fait remarquer. Deux blocs de béton qui se font face, les deux rives de la Méditerranée. C'est un monument à la mémoire de l'Algérie française, inauguré il y a 5 ans seulement. En 1962, plus de 100 000 rapatriés sont arrivés sur la Côte d'Azur, faisant de Nice la capitale de l'Algérie française en quelque sorte, empreinte toujours très marquée aujourd'hui, comme l'indique le lieu de notre rendez-vous avec Yvan Gasteau. Il est historien, maître de conférence à l'Université de Nice.
Alors nous sommes au square Alsace-Lorraine et on est devant le monument de Gueldre, qui est effectivement un monument qui rappelle un aspect de l'histoire de la guerre d'Algérie qui est lié à l'OAS.
Hein, l'organisation... Le lieutenant de Gueldre, l'un des fondateurs de l'OAS.
L'un des fondateurs de l'OAS que la ville de Nice honore. Et ce monument est un monument qui l'honore, ce qui met en évidence un des aspects de la ville de Nice qui a toujours été sensible à la question de l'Algérie française.
Encore aujourd'hui.
Dès la fin de la guerre d'Algérie, et encore aujourd'hui, oui, parce que dès la fin de la guerre d'Algérie, il y a un maire de Nice qui a épousé un petit peu cette cause, c'est Jacques Médecin, le fils de Jean, puisque Jacques Médecin arrive en 1966 aux fonctions de maire, et l'un des soubassements de son élection, c'est d'avoir été très proche des milieux pieds-noirs et d'avoir beaucoup joué sur la difficulté de la migration, du refus des Français d'Algérie, qui se sont beaucoup implantés dans la région, et en particulier à Nice. Il a beaucoup épousé ce combat, cette douleur, et ça a été un des aspects importants qui l'a amené à être élu, et ensuite il va beaucoup capitaliser là-dessus. Donc pendant la période Médecin, cette ville est la ville des pieds noirs, et en particulier qui n'hésitera pas à saluer les actions qui ont été menées par l'OAS, hein, le monument de Gueldre en est un exemple, et qui continue aujourd'hui, me semble-t-il, à travailler sur cette fibre, hein, qui est une fibre peut-être plus diluée, hein, peut-être moins évidente, mais qui est toujours en toile de fond très importante.
Qu'est-ce qui rend la ville de Nice assez spécifique sur ces questions d'acceptation ou de non-acceptation plutôt de cette immigration musulmane ?
la particularité de la ville, c'est justement cet amalgame ou ce non-amalgame qui se fait entre la valorisation d'un territoire qui est un territoire ouvert à tous les vents, ouvert à tous les apports, à toutes les présences, mais dont on ne valorise que la partie de l'élite, la partie aisée, la partie de ces migrations qui viennent plutôt de milieux sociaux très favorisés. Hein, c'est ce qu'on a beaucoup valorisé à travers le tourisme. Cette présence d'une diversité par le haut est quelque chose qui a été extrêmement valorisé au mépris d'une autre forme de diversité par le bas qui, du coup, a été un peu écrasée par cette valorisation.
D'immigration plus de travail.
Immigration de travail, évidemment. Immigration de travail qu'on a peu évoquée et qui, finalement, manque. C'est comme une sorte de partie d'un puzzle qui manque à une ville, puisque, aussi, pour les bienfaits du tourisme, on a considéré qu'il y avait des parties cachées de la ville qu'il ne fallait pas montrer. Donc, une ville qui est très exposée, une partie de la ville qui est très exposée, la promenade des Anglais, quelques espaces extrêmement visibles et qu'on voit sur toutes les cartes postales, dans tous les reportages, etc. Et puis, d'autres partie de la ville que même les Niçois ne connaissent pas d'une certaine manière, parce que justement ces espaces sont des espaces qui ont longtemps été considérés comme étant de non-droit, non acceptables, peu salubres, etc. Donc pas d'intérêt d'y aller, donc pas valorisés et surtout pas mis en mémoire.
Tramway qui compte à peu près une vingtaine d'arrêts. Ce qu'on remarque, c'est que le centre est extrêmement bien desservi, et notamment le Vieux-Nice, puisqu'il y a des arrêts qui sont espacés seulement de 200 à 300 mètres, pas plus. Donc cette partie-là de la ville est vraiment très bien desservie, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour les quartiers beaucoup plus périphériques.
Donc je suis Pascal Attenberg et je représente aujourd'hui l'association des commerçants du Vieux-Nice.
Allez, on va se promener. Le cadre se prête à la balade.
Alors on va tourner sur à droite, regardez. Vous voyez un petit peu de la mer, c'est-à-dire que où que vous soyez dans le Vieux-Nice, vous êtes toujours à proximité de la mer, de la colline du château, des commerces, des restaurants, c'est le paradis. C'est le paradis. On va tourner par là, si cela vous dit.
Est-ce que c'est un paradis fréquenté par tous les Niçois ?
Le Vieux-Nice ?
Oui.
Alors non, 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 non. Les Niçois ne s'approprient pas tous le Vieux-Nice. Beaucoup viennent en disant « là là, ça fait longtemps que je ne venais pas dans le Vieux-Nice » parce qu'ils ont une image du Vieux-Nice qui est une propriété des touristes. Et ce qui est relativement faux.
Donc ça veut dire que les Niçois ont eux-mêmes une fausse image du Vieux-Nice ?
Je pense. Monsieur Charles, qui est dans le Vieux-Nice depuis très longtemps, donc qui a une
boutique
devant
là
depuis 30 ans. Et tu trouves que ça a beaucoup changé, toi, le Vieux-Nice ?
Ah oui. Beaucoup, alors, beaucoup, voilà. Beaucoup, beaucoup. Je connais le Vieux-Nice. Tous les commerces d'alimentation, tout ce qui était, a disparu. Hein. Dans le Vieux-Nice, c'était que des magasins tripiers, bouchers, charcutiers, poissonniers. Et à 5h du matin, on entendait les charretons dans les rues. Hein. Ils approvisionnaient.
Hein. Et maintenant, c'est comment ?
Maintenant, c'est du tourisme, voilà.
Pas que ça, tous quand même. Trucs.
Et souvenirs.
Il y a l'artisanat, il y a des galeries d'art, il y a des commerces variés. Voilà. Il y a moins de commerces de bouche.
Voilà. Le vrai commerce qui a attiré le Niçois, qui a attiré le truc, il n'y est plus. Moi, je suis à la retraite. Moi, j'étais dans le métier de la bouche. La viande en gros, charcuterie, viande en gros. C'est pour ça que je me porte bien.
Merci Charles, merci, c'est cool. Hein. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.
Un Nice plus mélangé que l'image des non-niçois peuvent avoir. Absolument. Nous, on a une image scindée, clivante même. Clivante.
Je sais, mais ce sont des images caricaturales qui ne correspondent pas à une réalité de terrain. Il y a une tribalisation généralisée de la société française, qui est peut-être plus accentuée dans des villes qui induisent une mixité sociale et une mixité tout court plus importante par l'histoire, par le fait que Nice était italienne. Mais toute la France est clivée depuis 25 ans. Et que ce clivage est souvent accentué par un manque de connaissances, un manque d'informations, et qu'on surfe sur l'émotion au lieu de surfer sur de la culture générale et de la tempérance.
Ça, c'est l'approche plus politique. Il y avait une autre approche
au sens noble,
au sens électoraliste.
Non, pas mon Dieu.
Et l'autre approche que vous vouliez souligner, elle est de quel ordre ?
Elle est de l'ordre de la représentation que l'on a de Nice. C'est-à-dire, c'est une image. Et comme toutes les villes se vendent sur une image, je prendrai l'exemple pour se faire de Berlin, par exemple. Berlin est devenu ce que c'est devenu, pas par le hasard de ceux qui l'ont fréquenté, mais par une volonté déterminée de ceux qui ont une intelligence de marketing territorial avérée et qui ont donné à leur ville l'image qu'ils souhaitaient lui donner. On peut parler d'Amsterdam, je peux continuer, hein, parce que des villes référentes qui ont maîtrisé leur image, il en existe. une évidence à laquelle vont devoir se confronter les gens qui nous gouvernent, avec toutes les compétences qui sont les leurs, c'est de se dire, on ne vient plus pour Nice parce que la mer est belle et que le soleil brille. Non, on vient aussi pour la culture, pour la tolérance, pour la bienveillance, pour la mixité. Je sais que je suis peut-être en train de rêver, mais je pense que c'est possible. C'est possible. Attention, il y a des gens un peu pressés. Voilà, vous voyez, tout ce mix.
Image assez plaisante, sympa. Oui, d'une femme, une jeune femme voilée, qui passe et qui se faufile au milieu de sœurs, donc elles aussi voilées.
Elles aussi, différemment.
Et donc, c'est ça, Nice.
Et c'est ça.
Votre Nice, c'est ça.
Bah, le mien, c'est ça. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'il faut que nous vivions actuellement. C'est ça. C'est-à-dire d'arrêter de vivre à travers des écrans. Arrêter. Pardon pour la radio qui est en train de m'interviewer, mais arrêter de croire tout ce qu'on dit. Pardon. Arrêter d'avoir peur d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller traîner dans les rues, de discuter avec les gens, de retrouver un rapport simple à l'autre.
Et au pire, tu peux le foncer après. Ok ? Tu fais confiance ?
Vous allez pouvoir justement participer tout au long de cet après-midi et ce jusqu'à 17h à ce carnaval de quartier ici sur la place Wilson, votre jardin qui vous accueille, animation exceptionnelle. On fera l'élection aussi du meilleur costume pour vous les enfants, pour vos meilleurs déguisements.
Voilà, ambiance de carnaval ces jours-ci à Nice. C'est le premier rassemblement festif depuis l'attentat du 14 juillet. Là, c'est une petite animation de quartier. Les enfants sont déjà installés, évidemment déguisés. Mais c'est quand même une fête et un sentiment de fête à minima, tellement la sécurité est présente, omniprésente, à l'entrée de ce petit square Wilson dans le centre-ville. Les sacs sont fouillés, mais c'est quand même une sensation de retour à la normale dans cette ville de Nice qui est encore souffrante. Yvan Gasteau, historien, maître de conférences à l'université de Nice. Si je veux tenter de résumer, au risque de tomber dans un cliché, et ça c'est vous qui me corrigerez, Nice, ville encore tournée vers son passé, tournée vers la mer et le tourisme, au-delà, c'est quoi ?
C'est le paradoxe niçois, ça. Une ville très ouverte, très très ouverte. Il ne faut pas oublier que la ville de Nice est française depuis assez peu de temps, finalement.
Oui, rattachement tardif.
Rattachement 1860. Et que quelque part, il y a tout un état d'esprit à Nice qui est très différent de ce qu'on peut trouver de l'autre côté du Var, du côté de Cannes, Grasse. Le département est un peu sectionné en deux à travers ce fleuve, qui fait qu'il y a une mémoire ici qui se rappelle que Nice était piémontaise et que la capitale était Turin. Et que quelque part, il y a cet aspect un peu rebelle d'une ville qui n'est pas totalement française, qui a souffert d'avoir vécu un discrédit, d'une France qui n'aurait pas considéré Nice comme étant partie prenante de l'Hexagone, hein, notamment pendant la Première Guerre mondiale, le 15e Corps, les soldats qui ne se seraient pas battus complètement pour la France, Nice en a souffert de ça. Donc il y a cette dimension un petit peu de poche, en quelque sorte, que certains aiment bien décliner comme étant un peu une poche de résistance au sein de la France. En même temps, une ville d'un cosmopolitisme effréné par rapport à d'autres villes de France, hein, ouvertes aux Américains, aux Anglais, etc. Une ville qui s'est construite aussi par l'immigration italienne, par l'immigration européenne, qui a été une terre de refuge pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été ensuite une terre d'arrivée nombreuse et massive. On dit beaucoup Marseille, mais Nice aussi a accueilli en même temps et de concert les populations venues du Maghreb et les populations réfugiées, on va dire, pieds noirs de la fin de la guerre d'Algérie et de la fin de l'Algérie française. Donc cet amalgame-là, cet ensemble de dimensions qui se croisent, qui s'interpénètre, me semble être une grande richesse de la ville, mais une richesse que la ville, que les habitants, que les Niçois ne prennent pas en compte d'une manière suffisamment globale. Je dirais qu'il y a des bribes d'histoire qui sont prises en compte, mais toute cette richesse ne me semble pas encore être complètement assumée. Le jour où elle sera complètement assumée, il me semble que les déchirures pourront être cautérisées, on pourrait dire. Mais en tout cas, l'enjeu serait, et certains y travaillent, hein, que toutes ces mémoires sectionnées, parfois éparses de ces circulations, fassent de la ville autre chose que simplement la ville du tourisme. C'est très bien que Nice soit une ville du tourisme, on ne peut que s'en féliciter. Mais il faut que ce tourisme, en tout cas, l'image de la ville Nice, ville de tourisme, soit tempérée, soit en tout cas complétée par d'autres mémoires de la ville, par d'autres aspects historiques de la ville qui, trop longtemps, ont été cachés et tués.
Prochain arrêt.
Hôpital Pasteur. Terminus. Tous les voyageurs sont invités à descendre de la rame.
Voilà, c'est le terminus de cette ligne de tram, ce qui fait que pour aller dans les quartiers du Nord-Est, il faut ensuite prendre des bus pour aller notamment dans le quartier de l'Ariane. C'est un vaste quartier, quartier populaire, quartier de trafic aussi, et quartier donc mal desservi, ce qui fait dire à certains habitants de l'Ariane qu'il leur est souvent plus facile de se rendre en Italie toute voisine que dans le centre-ville de la ville de Nice. Pour parler de l'enclavement de ces quartiers du nord-est de Nice, nous allons rencontrer Georges-Claude Trova. Il est le président du comité de quartier Les Arianinques. Alors, où sommes-nous ?
On est à la rue du Comte Vert, à l'Ariane.
Rue commerçante,
plutôt. Une rue qui est commerçante, voilà, qui est bien commerçante. Alors, d'un côté, vous avez les copropriétés, et là, vous avez les HLM de la société Eridia.
Société publique ?
Non, société privée, société anonyme d'HLM. Voilà.
Donc copropriété globalement bien entretenue, d'aspect vraiment voilà. Pas grand-chose à dire. Et de l'autre côté, effectivement,
l'autre côté
HLM,
chez nous, bon,
on sent un délabrement
HLM,
quand même.
Voilà, ouais, ça ouais. Commence un peu et voilà. Tout le monde met des paraboles, tout le monde, voilà. Donc,
on voit des vélos, on voit des tapis.
On voit tout, tous les balcons sont pleins. Voilà. Avant, ça n'existait pas. Mais suivant le changement de population, les gens, ils habitent en HLM et ils s'en foutent. Alors là, on est en train de reprendre en main, que ce soit le nettoyage, l'entretien, et puis aussi essayer de responsabiliser les gens pour que ça devienne propre, que ça ne soit pas comme ça. Parce que toutes les paraboles qui ont été mises, c'est sans autorisation.
On va parler de toutes les métamorphoses qu'a connues le quartier. On va s'installer tranquillement pour discuter de tout ça.
Tu vas bien ?
Bonjour, madame la réponse. Ça va, Marie ? Coucou, qui c'est qui est ?
Ah, vous arrivez ? Ça vous gêne pas ? On peut se mettre là-bas ? On va un peu discuter de l'Ariane.
Bien sûr.
Hein ? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez prendre ? Un thé, hein ? Un thé à la menthe ?
Alors,
un beurre de...
avec
sucre ou sans sucre ? Allez, avec un peu de sucre.
Un peu de sucre,
ouais.
D'accord.
Voilà, et puis moi j'en boirai un... On partagera un verre, comme d'hab.
D'accord, comme d'hab.
Ok,
d'accord.
Voilà, d'accord. Merci.
Oui.
Allez, venez, on va se mettre là. Actuellement, on peut compter pratiquement 20 000 habitants. Le quartier.
Alors vous avez devant vous un exemplaire de la pétition que vous allez relancer, hein, c'est pas la première hein, que vous
alors,
initiez, mais c'est une nouvelle pétition pour demander une nouvelle fois le tramway ici jusqu'à l'Ariane.
Voilà, exactement. Donc c'est un questionnaire qu'on fait pour la ligne 1, qu'on présente aux habitants. C'est un questionnaire où on demande êtes-vous résident de l'Ariane ? Pensez-vous que l'arrivée du tram à l'Ariane est indispensable ? Considérez-vous l'absence de tramway comme injuste ? Et quand on voit les réponses des gens, ils veulent le tram, ils veulent s'en servir, ils veulent toutes les commodités. Alors, monsieur Esposito.
Et cette question, j'imagine que vous avez globalement toujours la même réponse à celle-ci particulièrement. Considérez-vous l'absence de tramway
comme injuste ? Exactement.
Oui. Vous le ressentez, vous aussi, ce sentiment d'injustice des habitants de l'Ariane, qui est déjà un quartier qui peut être parfois compliqué ? Et en plus, cet isolement, cet éloignement, cet enclavement par rapport au transport public ? Vous le ressentez, vous ?
Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui vont rarement en ville. Parce qu'il faut prendre le tram, il faut changer, il faut tout. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas du quartier. C'est une injustice. Pour nous, c'est une injustice. Voilà. Ça veut dire qu'on ne veut pas les jeunes au centre-ville. C'est ça, moi, je pense. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est la réaction de tous les gens qui habitent l'Ariane. Ils ne veulent pas que les Arianinques aillent en ville. L'Ariane a un vécu. Si on va sur Internet, quand on regarde l'Ariane, les images de l'Ariane à l'époque, Je veux dire que c'était des petites maisons et des petits paysans.
Après, quand les immeubles sortent de terre, c'est une population plus de fonctionnaires qui s'installent.
Alors,
au début.
C'est arrivé, oui, effectivement, beaucoup de rapatriés, beaucoup de fonctionnaires. Sur le quartier, c'est une majorité de fonctionnaires, avant 90% de fonctionnaires. Et ensuite, ça a changé.
Après, population immigrée, majoritairement musulmane qui arrive, à quel moment?
Progressivement, depuis les années 90. Mais aujourd'hui, ben, c'est majorité maghrébine, africaine, la communauté gitane aussi. Et puis il reste les Gaulois, comme on dit. Ils sont quand même très peu sur le quartier. Mais sur le quartier de l'Ariane, on a beaucoup de communautés. On a beaucoup de communautés et on s'entend. On s'entend. Voilà, il y en a qui sont un peu plus brillants. C'est pas grave. Mais je veux dire que c'est bien. Voilà.
Je vais dire les choses peut-être crûment. Est-ce que c'est parce que c'est majoritairement musulman, ce quartier, qu'il est oublié?
On va dire ça. Voilà. C'est le ressentiment qu'on en a tous. C'est pour ça qu'on n'a pas le tram. Voilà. Pour pas que ça aille en ville.
Voilà, c'est ça. Vous sentez-vous avant tout un habitant de l'Ariane ou avant tout niçois, avec ce sentiment d'injustice et d'abandon que vous nous décrivez?
Je suis arianenque.
Avant d'être niçois?
Avant d'être niçois. Hein. Alors, on va servir comme on fait au bled. Je me mets un peu d'eau. Voilà.
Et vous l'avez coupé avec un peu d'eau?
Je me limite en sucre. Voilà, madame.
Merci.
Monsieur. Et voilà.
Santé de l'Ariane.
À la santé de l'Ariane. Vous êtes les bienvenus.
On doit vivre ensemble. On est condamné à vivre ensemble. Moi, j'ai presque 50 ans ici. Je suis d'origine tunisienne. Mais c'est vrai, il y a des choses difficiles. Il faut reconnaître. Moi, une fois, j'étais boire un coup à Nice. Le type m'a dit non, je ne sers pas aux étrangers. Pourquoi? Je ne suis pas un être humain comme tout le monde. Je ne vais pas payer ma bouteille. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Si je suis arabe, c'est ma faute. Est-ce que je comporte mal? Non. Pourquoi vous me jugez directement avant que... Oui, c'est ça qui est mauvais. Ou bien l'amalgame. On mélange tout dans le même sac. Non, moi je ne suis pas d'accord.
Donc du coup, vous ne quittez pas souvent le quartier de l'Ariane?
Où j'y vais? Où j'y vais? Des fois, il me dit, oui, mais pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Eh bien, maintenant, à 67 ans, je vais rentrer chez moi. Comment? Explique-moi comment je vais rentrer chez moi à 67 ans.
Aujourd'hui, rentrer en Tunisie, oui, pour vous êtes un étranger en Tunisie, quasiment.
Je suis un étranger. Parce qu'on est considéré déserteur du pays. J'ai envie des choses à vous parler, mais pas maintenant.
On va vous laisser travailler.
Oui, voilà. Parce que moi, je juste provisoire ici. Si j'ai le temps, oui, j'ai des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Des bons et des mauvais. Merci. Oui, à votre service. Alors, des belles tomates. Ok. Des clémentines de clémentier. Ok. C'est tout?
Oui.
80 centimes.
Nous nous dirigeons vers l'église de l'Ariane pour rencontrer le père Patrick Bruzon qui s'échine à rendre le vivre ensemble concret. Il dirige l'association MIR, ça veut dire la paix en serbo-croate, association qui vient en aide socialement aux habitants de l'Ariane, quelles que soient leurs origines et quelle que soit leur religion.
Là, c'est l'épicerie sociale maintenant. L'épicerie de Marie, le panier de Marie. Voilà. Et dans cette épicerie, il y a à peu près 3000 personnes qui viennent se ravitailler pour faire des courses à bas prix.
3000 personnes par?
Par mois à peu près. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le nombre, le chiffre, c'est la diversité. Bonjour! Et toi? Bon.
Oh là là, c'est bon!
Allez! Salam alaikum!
Bonjour mon père, comment allez-vous?
Bonjour!
Voilà. Oui, c'est pas de problème. C'est une ruche.
Samira, c'est une belle figure. C'est la radio française, Samira. Samira, elle vient de Bagdad.
Voilà. Ça veut dire quelque chose chez vous, le vivre ensemble, quand on regarde ce qui se passe devant nous.
Très important, très important. Vivre avec, c'est finalement notre témoignage de foi. Parce que le vivre avec, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Finalement, le mot religieux, ça veut dire religaré, relier. Hein. Et ici, ce qui est beau, c'est les dames voilées là, qui servent et qui aident. Fatima, tu viens me faire une bise? Fatima, c'est une de nos plus ferventes bénévoles. Fatima, c'est la radio de France.
Oui,
voilà.
Bonjour.
Combien ça fait d'années que tu nous aides?
9 ans ou 10 ans.
C'est énorme.
Comme ma famille.
Voilà, c'est un...
C'est une image, qu'on ne voit pas partout à Nice, on va le dire très honnêtement. C'est compliqué parfois à Nice.
Oui.
Voilà, on sent des tensions communautaires, des tensions, on va dire, identitaires, je sais comment les qualifier. Ici, ça n'existe pas.
Mais il faut soulever un petit peu la vérité, médiatique des quartiers comme l'Ariane, qui sont souvent stigmatisés dans le mauvais sens, et venir voir le vivre avec au quotidien. Et là, on est étonné, forcément. On est étonné parce que tous ces sourires, tous ces regards, c'est ceux des gens normaux, tout simplement, qui désirent vivre la paix, de se regarder en faisant de nos différences une chance.
Pourquoi ce qui est possible ici n'est pas possible à plus grande échelle dans la ville de Nice?
Et parce que, comme toute vérité humaine, la sociologie veut que le groupe humain a un certain potentiel de vérité qui se vit ensemble. Quand le groupe humain dépasse un certain nombre, justement, ça devient la grande ville, ça devient la grande réalité sociale. Et là, c'est beaucoup plus difficile de faire du quotidien une vérité dans la proximité. Voilà, je crois qu'on a besoin de cellules petites pour se voir, pour se connaître, pour se comprendre. C'est vrai que mieux connaître l'autre, je pense que c'est mieux l'aimer. Mais pour cela, il faut la proximité. La proximité, elle est possible dans des cellules plus petites. On va rejoindre la prière parce qu'on est un peu en retard.
Très bien.
Allez, on va monter à l'église. Alors, l'église nouvelle date de 1984. On a fait le transfert de cette petite chapelle.
Chapelle historique.
Historique, voilà.
À l'église
neuve et plus bétonnée, bon. On dirait. Alors, l'architecte a voulu faire la tente d'Abraham. Hein, et c'est bien ici à l'Ariane, la tente d'Abraham. D'ailleurs, on fait souvent des choses avec les musulmans, avec les juifs aussi. À Noël, j'ai eu l'honneur de devancer la procession où l'imam de l'Ariane a mis Jésus dans la crèche. Avec une délégation juive, une délégation musulmane, et puis les chrétiens, évidemment.
Ce qui, dans la tonalité contemporaine, a un certain écho.
Ça, voilà, ça peut avoir du sens, je pense, pour l'ensemble des nations. Allez, on va dans la petite chapelle de semaine. Voilà, ce sont les lodes que vous entendez.
Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, rends-nous visite grâce d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Nombre de Niçois ne veulent pas aller dans ces quartiers de l'Ariane ou même le quartier qu'on appelle Bon Voyage parce que, disent-ils, ils n'y s'y sentent pas chez eux. Ici, les femmes sont très majoritairement voilées. Alors, on parle souvent de voile classique, mais aussi des tenues plus ostentatoires, ce qu'on appelle le djilbab, c'est-à-dire une tenue très vaste, très large, qui cache les formes des corps des femmes. Et ces tenues sont souvent portées par de très jeunes femmes dans ces quartiers-là. Et ce phénomène s'est largement amplifié ces 5 dernières années, nous disent les habitants de ce quartier.
Entrez. Je vais vous laisser vous déchausser, comme ça vous pouvez rentrer peut-être.
Vous étiez déjà venu ?
Jamais.
Non.
C'est la première fois.
Donc vous êtes devant, vous êtes de la mosquée Al Furqan. Et vous êtes le bienvenu, bienvenue à France Inter.
C'est gentil.
France Inter avec laquelle, bien sûr, on a grandi. Alors, je suis Boubekeur Bekri. Je suis le vice-président du Conseil régional du culte musulman Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis le recteur de la mosquée Al-Furqan, dans laquelle vous vous trouvez. Vous savez, après les événements de 2015 déjà, dans les regards, lorsque les regards ne glissent pas, parfois ils s'arrêtent. Et la fraction de seconde dans laquelle ils s'arrêtent, vous apprenez beaucoup de choses. Parfois on remonte loin dans les regards, vous savez, on peut remonter à des périodes difficiles, dans les années 60. Et c'est
faites référence à la guerre d'Algérie.
Par exemple, oui, ou la période coloniale. Et donc, ce sont des parenthèses de trop qui ne permettent pas de voir l'avenir. Et en fait, il y a des moments où, malgré tout, la société veut regarder le rétroviseur. La vision passéiste qui consiste à regarder le musulman parce qu'il est musulman ou le catholique parce qu'il est catholique, ça doit être définitivement passé. Je pense qu'il faut parfois corriger l'histoire ou lui mettre un terme. Lorsque je parle avec certaines personnes, parfois ils se trompent, pensant que je n'ai pas la maîtrise de la langue, et ils commencent par des « vous, nous, vous, nous ». Et j'ai dit « attendez, vous parlez de qui, nous ?»
C'est qui nous, c'est qui vous.
Nous, qui vous.
Vous, c'est les autres.
Voilà, donc en fait, il y a des choses qu'il faut corriger. Et ce « vous, nous », il était peut-être possible dans des moments, dans les années 60, mais entre-temps...
Du temps des colonies.
De temps des colonies et du temps du début de l'émigration et de la reconstruction, de la période de reconstruction. Nous en sommes à la 4e, 5e génération, 6e. Et il y a des générations de musulmans qui sont français, français, français. Et certains des musulmans ont du mal à comprendre leur francité, compte tenu du poids de l'histoire. Certains français dits de souche ont du mal à voir le futur et restent parfois branchés sur leur rétroviseur. À un moment donné, c'est la réalité qui doit l'emporter. Peut-être qu'en France, on a besoin d'un sursaut pour mieux voir ce que l'on est, vers où on va, non pas simplement d'où on vient, mais ça devient une nécessité. Et je pense qu'il faudrait peut-être aussi prendre exemple sur ce qui se passe autour de nous pour pouvoir franchir ces obstacles.
Quand vous parlez de nécessité, ça veut dire que là, on arrive au bout de cette cohabitation.
Oui. Je pense que c'est grave. Et de temps en temps, vous avez petit à petit, on arrive à une situation où, de cécité, on ne voit plus. Et bien, pour continuer à voir, il faut avoir le courage de créer le changement. Malgré les réticences et les résistances au changement qui peuvent venir de tous les côtés, et j'essaie d'avoir un discours objectif, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment comment piloter pour faire en sorte de franchir ces obstacles-là et de créer de la hauteur.
Je m'appelle Chali Ali, j'ai 36 ans, père de 3 enfants, berbère marocain d'origine, fils malheureusement de la première victime de ce camion fou qui nous a beaucoup touché profondément au sein de notre famille, comme beaucoup de familles niçoises et beaucoup de Niçois.
Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce nouveau combat avec la création de cette association pour lutter contre la radicalisation de jeunes ici dans la région ? Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes toujours en deuil et malgré tout vous vous lancez dans ce combat. Pour quelle raison ?
Je veux essayer d'être responsable, on va dire. Et donc je vais essayer qu'on ne tue pas d'autres mères ou d'autres enfants ou d'autres innocents. Et pour cela, la seule chose que je puisse faire à mon niveau, c'est la prévention. On doit tous se mettre à faire de la prévention. Et on a les moyens de lutter contre tout cela. Il faut qu'on s'unisse. Si on est désunis, on n'ira que vers un mauvais avenir.
Vous sentez l'unité ?
Oui, il y a une certaine unité par rapport au drame qu'il y a eu, bien sûr. Mais après, bien sûr, il y a malheureusement... Il y a de l'ignorance, malheureusement. Des deux côtés, malheureusement, oui.
On dit souvent que Nice et les Alpes-Maritimes sont des endroits qui fournissent beaucoup, malheureusement, de jeunes qui prennent la route du djihad et une centaine de jeunes de la région du département qui sont déjà partis en Syrie et en Irak. Vous savez pourquoi particulièrement ici, le recrutement a été facile ? Vous avez déjà réfléchi à ces questions-là ?
Moi, à mon humble avis, l'extrémisme politique nourrit l'extrémisme religieux. et vice-versa. En France, nos parents, ils n'ont jamais été extrémistes, nos grands-parents non plus. Pourtant, nos grands-parents, ils sont battus pour la France, nos pères l'ont reconstruit. Ils n'ont jamais été dans cet obscurantisme, quoi. Maintenant, voilà, moi, mon but, c'est maintenant de voir l'avenir. Le passé reste au passé, et le passé, pour moi, doit rester en tant que mémoire, en tant qu'histoire, pour ne pas faire les mêmes erreurs dans le futur. La France, elle ne devrait pas avoir peur d'elle-même, parce que quand on connaît l'histoire de France, elle est revenue de loin, plus d'une fois, depuis Clovis, premier roi chrétien, mérovingien. Ben, depuis là, c'est moi que j'ai appris un peu l'histoire de France. La France, souvent, elle a été en péril, mais c'est toujours relevé. Alors, je ne vois pas pourquoi, maintenant, elle serait en péril. Elle va se relever, elle va trouver la solution, mais la solution, elle viendra qu'avec une main tendue, pas avec le poing fermé. L'ignorance amène à la peur et la peur amène à la haine.
Je vais poser une question un peu plus personnelle, mais l'association que vous nous décrivez va demander une énergie folle. Est-ce que vous êtes assez debout pour tenir ce combat? Est-ce que vous avez hésité d'ailleurs à vous lancer dans cette association avec tout ce que ça va demander?
Oui, c'est sûr, hein. On a hésité, on s'est beaucoup posé des questions. Vu notre deuil, vu justement le travail que ça allait demander, vu les événements actuels, on s'est dit, oula, on est trop petit. Mais en y réfléchissant, on a dit, on n'a qu'une mère, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un seul pays. Ben, on va essayer.
Redites-nous le nom de l'association.
Ma mère patrie.
C'était Nice, une identité plurielle, un reportage de Vanessa Descoureaux, prise de son Patrice Klein, mixage Philippe Bredin, réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Zora Ben Spahi. À la semaine prochaine.